Le journal de la rédaction, c'est avec vous Stanislas Vazak. Bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Tension extrême ce soir au Venezuela. Une partie de l'armée semble avoir rejoint le président autoproclamé Juan Guaido. Des affrontements ont éclaté à proximité d'une base militaire. Le point à Caracas avec Benjamin Delisle dans un instant. Et nous verrons avec Nadine Epstein que la crise vénézuélienne divise la communauté internationale. Nouveau tour de vis migratoire aux États-Unis. Donald Trump veut facturer les demandes d'asile. Le président américain juge laxiste les lois actuelles sur l'immigration. Nous ferons le point avec Loïc Loury à New York. En France, plus d'un millier de Black Blocs se préparent à perturber le 1er mai demain à Paris. Une estimation donnée par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui affirme que le gouvernement est prêt à répondre à la menace. Les explications de Steven Goyer. Le dossier de ce journal sera consacré aux aidants, 11 millions de personnes qui soutiennent au quotidien un proche en situation de dépendance. Le Café des aidants leur permet de se retrouver pour partager leur expérience. Le reportage à suivre de Maxime Fayol. Les événements s'accélèrent donc ce soir au Venezuela. Le président autoproclamé Juan Guaido affirme avoir désormais le soutien d'une partie de l'armée. Le chef de l'opposition qui s'est rendu tôt ce matin devant une base aérienne de Caracas pour annoncer la phase finale de la lutte contre Nicolas Maduro. Le président en titre, lui, dénonce une tentative de coup d'état et il appelle l'armée et ses partisans à se mobiliser pour faire échec à Juan Guaido. En milieu d'après-midi, des coups de feu ont éclaté à proximité de la base aérienne où les deux camps se font face. On retrouve à Caracas le correspondant de RFI, Benjamin Delisle.
Une foule de partisans de l'opposition a pris possession des rues autour de la base militaire de la Carlota depuis ce matin. Ils affluent de toutes parts vers le quartier voisin d'Altamira, tandis que certains affrontent les forces de l'ordre toujours acquises à Nicolas Maduro sur l'autoroute qui les sépare de la base militaire. L'odeur des gaz lacrymogènes a envahi le quartier, des tirs ont même été entendus. Plusieurs militaires ont rejoint les manifestants, ils portent un brassard bleu en soutien à l'opposition et à Juan Guaido. Le leader s'est d'ailleurs exprimé une nouvelle fois sur la place Altamira, assurant que l'armée était désormais du côté du peuple. Mais la situation n'est pas aussi simple. Le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, a réitéré le soutien du haut commandement des forces armées à Nicolas Maduro. Le chef du parti socialiste, Diosdado Cabello, a appelé à une contre-attaque des chavistes qui se sont réunis devant le palais présidentiel de Miraflores. Une foule de partisans escortés par de nombreux collectivos, des paramilitaires qui entendent défendre leur président contre d'éventuels assaillants. Reste que les manifestants d'opposition sont de plus en plus nombreux dans les rues de Caracas, persuadés de vivre une journée historique et que le gouvernement de Nicolas Maduro va tomber.
Benjamin Delisle, correspondant de Radio France Internationale au Venezuela. Alors la brusque dégradation de la situation à Caracas inquiète bien sûr la communauté internationale, avec d'un côté les partisans de Juan Guaido emmenés par les États-Unis et de l'autre les soutiens de Nicolas Maduro, au premier rang desquels on trouve la Russie. Nadine Epstein, bonsoir.
Bonsoir.
Voyons avec vous les principales réactions dans le monde à la crise vénézuélienne.
Et l'un des premiers pays à avoir appelé au calme, c'est l'Espagne. Nous souhaitons de toutes nos forces qu'aucune effusion de sang ne se produise, a déclaré Madrid. Nous ne soutiendrons jamais un coup d'État militaire. La solution au Venezuela doit être démocratique et pacifique. Outre les liens historiques et culturels entre les deux pays, l'Espagne accueille sur son sol la plus grande diaspora vénézuélienne et par ailleurs Madrid est le deuxième plus gros investisseur au Venezuela. Même réaction du gouvernement britannique qui, dès le mois de février, a reconnu Guaido comme président constitutionnel intérimaire. Nous nous concentrons sur la solution pacifique de la crise et le rétablissement de la démocratie vénézuélienne. Le peuple vénézuélien mérite un avenir meilleur, il a assez souffert et le régime Maduro doit cesser, fermer les guillemets. En tête des soutiens à l'opposant Juan Guaido, la Colombie, qui conseille aux militaires, je cite, de se ranger du bon côté de l'histoire. Les États-Unis affirment soutenir le peuple vénézuélien dans sa quête de liberté. En revanche, Cuba et la Bolivie parlent, comme leur allié Nicolas Maduro, et de tentatives de coup d'État qui cherche à plonger le Venezuela dans le chaos. Pour l'instant, au Venezuela, la haute hiérarchie militaire ne répond pas à l'appel de ralliement de Guaido. Cependant, néanmoins, quelques casernes seraient divisées et certains soldats sensibles à la promesse d'amnistie promise par le président autoproclamé en février. Ces derniers mois, une centaine de soldats a été arrêtés pour conspiration après la mise en échec de 4 complots. Mais le haut commandement militaire est l'enfant chéri du régime chaviste. Il refuse toute négociation avec l'opposition, tout en se positionnant comme pilier des institutions et pourrait essayer de jouer un rôle d'arbitre dans cette crise.
Nadine Epstein, merci. Rappelons qu'au total, une cinquantaine de pays ont reconnu Juan Guaido comme nouveau président du Venezuela. Aux États-Unis, Donald Trump prend de nouvelles mesures restrictives sur la question migratoire. Le président américain ordonne à son administration de rendre payantes les demandes d'asile. Ce durcissement a été annoncé hier soir au moment où Donald Trump dénonçait sur Twitter les lois américaines sur l'immigration. Loïc Loury nous appelle de New York.
Des textes laxistes, inefficaces et dangereux. Voilà comment Donald Trump qualifie la législation américaine actuelle sur l'immigration qu'il attribue régulièrement aux démocrates. C'est pourquoi le président a envoyé cette note à ses ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure afin de compliquer le sort des demandeurs d'asile. Trois mesures en particulier retiennent l'attention. Des demandes payantes, un processus accéléré de 180 jours maximum et enfin l'interdiction pour les migrants non régularisés d'obtenir un permis de travail temporaire. La circulaire donne à l'administration 90 jours pour faire des propositions. Aucune date de mise en application toutefois n'est précisée. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que Donald Trump essaye de durcir la loi sans passer par le Congrès. Il avait notamment tenté fin 2018 d'interdire aux clandestins de demander l'asile. Décision immédiatement contestée par un juge fédéral. Mais pour Trump, l'essentiel est ailleurs, se rappeler à une partie fondamentale de ses électeurs, celle qui espère toujours la construction d'un mur anti-immigration et votera pour lui en 2020 s'il tient sa promesse.
Loïc Loury, l'un de nos correspondants aux États-Unis. Partons en Israël à présent pour évoquer ces frictions diplomatiques entre la France et l'État hébreu. L'ambassadrice française a été convoquée par le ministère israélien des Affaires étrangères pour une protestation officielle. Hélène Le Gall va devoir s'expliquer sur les propos de l'un de ses anciens confrères, Gérard Haraud, ex-ambassadeur de France aux États-Unis. Il y a 10 jours, alors qu'il était sur le départ, Gérard Haraud avait déclaré qu'Israël était un état d'apartheid. On retrouve Étienne Monin à Jérusalem.
Et c'était en quelque sorte sa tournée d'adieu. Gérard Haraud a pris sa retraite le 20 avril dernier. Juste avant, il avait accordé une série d'interviews à des médias dans lesquelles il a brisé l'habituel langage feutré de la diplomatie. Gérard Haraud est un représentant brillant du Quai d'Orsay. Il est énarque, polytechnicien. Il a été ambassadeur à l'ONU et en Israël au milieu des années 2000. Et dans cette série d'interviews, il se moque de la personnalité de Donald Trump comparé à Louis XIV. Il sourit de la position intenable des Britanniques sur le plan économique avec le Brexit, et il regrette l'état d'apartheid créé en Cisjordanie par l'occupation. Son point de vue, c'est qu'Israël défend une politique impossible, opposée à la fois à la création d'un état palestinien et à l'attribution de la citoyenneté aux habitants de Cisjordanie. Pour lui, c'est de fait un état d'apartheid. Sa formulation fait référence à Israël, mais l'idée est là. La protestation est une pratique courante en Israël. Le lien avec la France est aujourd'hui bon, mais pas très chaleureux. Le Premier ministre israélien a récemment souligné les divergences et ni le Premier ministre ni le président français ne sont pour l'instant venus en Israël.
Étienne Monin, correspondant de France Culture à Jérusalem. Toujours en Israël, Benjamin Netanyahou et les 119 autres députés de la Knesset ont prêté serment aujourd'hui après leur victoire aux élections du 9 avril dernier. Le Premier ministre sortant sera prochainement reconduit pour un cinquième mandat à la tête du pays. Il dispose d'une confortable majorité de 65 sièges sur 120 grâce notamment au soutien de la droite nationaliste et des partis juifs ultra-orthodoxes. C'est un sujet méconnu, la contrebande de gaz réfrigérant HFC bat son plein en Europe, un gaz qui contribue de manière agressive au réchauffement climatique. C'est ce que révèle un rapport de l'association britannique Environmental Investigation Agency qui a enquêté sur le trafic des HFC pourtant appelés à disparaître. Bertrand Galichet.
C'est l'effet pervers d'une bonne résolution. Un accord signé par 69 pays il y a 2 ans et demi à Kigali et qui vient d'entrer en vigueur en janvier dernier. Il prévoit la disparition progressive d'ici 2047 des hydrofluorocarbures, les HFC, utilisés pour faire fonctionner les réfrigérateurs et les climatiseurs. Des gaz efficaces, eux-mêmes censés remplacer avantageusement les anciens CFC, mais qui se sont finalement révélés de redoutables contributeurs à l'effet de serre. D'où la décision d'interdire peu à peu ces gaz HFC. Ils représenteraient 1 milliard de tonnes de CO2 chaque année et cette fin programmée, qui implique l'attribution de quotas aux industriels européens, fait augmenter la demande, donc les prix qui ont explosé. Cette situation alimente un marché noir des hydrofluorocarbures en provenance de Chine, pays qui n'a pas signé l'accord de Kigali. Les HFC arrivent directement des usines chinoises vers l'Union européenne ou transitent par la Russie, l'Ukraine, la Turquie ou l'Albanie. Une partie de ces gaz est transportée en contrebande, par mer ou par route, mais l'essentiel passe par les circuits d'importation officiels. La réglementation permet aux douanes de connaître le quota annuel autorisé pour un industriel, mais pas de savoir ce que l'entreprise a déjà importé. Un système aussi complexe que peu efficace, même si la Commission européenne assure prendre des mesures concertées avec les États membres.
Combien seront-ils demain à Paris pour perturber le défilé du 1er mai? Une chose est sûre, les Black Blocs utilisent les réseaux sociaux pour annoncer leur venue en masse dans la capitale. Il pourrait être jusqu'à 2000 activistes d'ultra-gauche, selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Bonsoir Steven Goyer.
Bonsoir.
Emmanuel Macron a évoqué le sujet ce matin au Conseil des ministres. Le président demande aux forces de l'ordre une réponse extrêmement ferme face aux Black Blocs.
Et oui, le sujet est forcément revenu sur les tablettes du Conseil des ministres ce matin avec ce message passé par Emmanuel Macron à ses ministres et relayé lors du point presse par la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Le président de la République a indiqué que de manière très ferme, il fallait à la fois permettre de manifester, de revendiquer, mais que pour pouvoir protéger ce droit à manifester, il fallait également qu'on soit extrêmement ferme sur tous ceux qui n'ont pour objectif uniquement que le désordre, la violence et de l'agressivité, voire des agressions en direction des forces de l'ordre. Et c'est notre préoccupation majeure et je crois que c'est une manière de bien préserver la liberté de manifester.
Volonté de faire fermeté face aux 1000 à 2000 activistes radicaux attendus dans la capitale, sans doute renforcés par certains ultra-jaunes, selon les termes et le décompte du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui dit craindre une infiltration des cortèges syndicaux et notamment de celui qui s'élancera demain après-midi de la gare Montparnasse pour rejoindre la place d'Italie.
Demain, à Paris, un dispositif fort sera mis en place et plus de 7400 policiers et gendarmes seront mobilisés. Au cours de ces réunions, j'ai rappelé mes consignes. Mobilité, réactivité, empêchement des violences et interpellation systématique des fauteurs de troubles.
À noter que les manifestations ont été interdites sur les Champs-Élysées ou les alentours de Notre-Dame. Des arrêtés ont également été pris à Lyon, Caen ou Rennes pour interdire les défilés en plein centre-ville.
Steven Goyer, merci. Toujours en Conseil des ministres ce matin, le gouvernement a présenté son projet de loi sur l'énergie et le climat. Le texte prévoit de diviser par 6 les émissions françaises de gaz à effet de serre d'ici 2050. Sur le nucléaire, la loi confirme la révision de la feuille de route gouvernementale. L'objectif de ramener à 50% contre 70% aujourd'hui la part du nucléaire dans la production électrique française, eh bien cet objectif est repoussé à 2035 au lieu de 2025 précédemment. Plusieurs centaines de personnes ont marché contre le racisme aujourd'hui à Metz. Une marche organisée après la découverte d'échanges de propos racistes entre un groupe d'étudiants de l'université de Lorraine en tête de cortège. Il y avait certains des étudiants victimes de ces propos. Personne ne mérite d'être traité de singe, a lancé au mégaphone une jeune femme qui affirme faire partie des victimes. Alors pour éviter la répétition de tels incidents, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, propose d'instaurer une journée nationale contre le racisme à l'université. Initiative saluée par le délégué général de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, Stéphane Nivet.
J'insiste sur la question de l'université. C'est un lieu d'émancipation et d'apprentissage de la raison, de l'esprit critique. Donc si dans ce lieu-là, dans des filières de sciences humaines en plus, parce que le cas qu'on a rencontré est en sociologie, si on n'a pas conscience que l'universalisme est le cœur battant de la société, alors où est-ce qu'on en aura conscience? Je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Strasbourg la semaine dernière également avec les dérives qu'on a pu constater. Du moins, si dans un institut d'études politiques où se forgent les consciences des cadres de la nation de demain, on n'est pas pétri par les valeurs de la République et la conscience que crier 1 et 2 et 3e Reich, ça pose un problème, où est-ce que ça va poser un problème? Donc il y a vraiment des choses, des fondamentaux à remettre. Et puis l'autre dimension, c'est la dimension du numérique. On assiste à un phénomène de libération de la parole raciste, antisémite sur les réseaux sociaux, dont on trouve l'écho maintenant dans la pratique universitaire ou dans la sociabilité universitaire. Il faut redire aux étudiants que l'usage du numérique ne les exonère pas d'un certain nombre de principes et de règles et de lois de la République. Ça peut avoir des conséquences pour eux pour plus tard également, et que on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire, et que le racisme et l'antisémitisme sont des délits, ne sont pas des opinions. Donc il faut remettre aussi des principes dans des usages qui n'en ont pas eu pendant longtemps.
Stéphane Anne Nivet de la LICRA. Il répondait à Hakim Kasmi. Le dossier de la rédaction est consacré ce soir à ceux que l'on appelle les aidants. Ils sont un peu plus de 11 millions en France, 11 millions de personnes qui s'occupent au quotidien d'un proche en situation de dépendance liée à l'âge ou à la maladie. Ces aidants sont parfois obligés de quitter leur travail temporairement. Emmanuel Macron a promis de les aider en leur donnant une meilleure reconnaissance. Ces personnes se retrouvent parfois pour partager leurs expériences. Ainsi, une fois par mois, un peu partout en France, se tiennent des cafés des aidants. Maxime Fayol, vous avez assisté à l'une de ces réunions dans le 2e arrondissement de Paris.
La table est pleine de viennoiseries, de cafés et de thé à la menthe. Ce matin, ils sont 7 à se présenter à ce café des aidants. On partage son expérience, ses difficultés aussi, ses traumatismes parfois, comme Chantal.
Un dimanche, je vais au marché. Il faisait un mauvais temps, d'habitude je l'emmène avec moi, mais là il y avait un mauvais temps. Et j'ai dit, maman, je vais acheter du poisson, elle adore le poisson. Donc elle m'a dit oui, elle regardait la télé, elle avait son café, elle avait tout. Et quand je suis revenue une heure à peu près, pas plus, elle avait disparu.
La plupart du temps que je viens ici, je pleure, c'est pour ça que je voulais plus. Enfin, il y a des mouchoirs.
Oui. Aussi, il m'a dit, vous êtes aussi le capitaine du navire. Enfin, on tient le gouvernail. Si on lâche le gouvernail, vite.
Mais c'est lourd.
C'est pour ça qu'on vient ici et qu'on apprend justement à lâcher et à prendre plus de temps pour soi et du recul pour pouvoir mieux aider nos proches. C'est bien toute la difficulté.
Ce dont souffrent ces aidants, c'est d'un manque de reconnaissance, d'un manque de temps pour eux aussi. Ce matin, l'association Atmosphère vient leur proposer un système qui s'appelle le relayage pour qu'ils puissent prendre un peu de répit.
Ça peut aller de 4 jours à 14 jours. Donc pendant ce laps de temps, vous allez partir et puis l'intervenant prendra tout en charge.
J'ai l'appréhension de tomber malade ou d'avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Et là, le fait d'avoir cette information-là, moi je trouve ça plutôt safe, quoi. Ah oui, mais vraiment, ça va changer ma vie.
Des réponses essentielles pour Rabia Gadrouz qui anime cette matinée. Pour elle, ces cafés sont un moment fondamental pour les aidants.
L'échange entre les aidants, c'est très très important. Ça crée aussi des liens. Ce que je me rappelle bien, il y a un groupe d'aidants qui ne se connaissaient pas auparavant, et par le biais des cafés des aidants, par leur participation, ils ont constitué un groupe d'amis. Elles se téléphonent et tout, donc le lien social, je le souligne. Il faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir continuer à prendre soin de l'autre.
Il y a quelques jours, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a promis des mesures pour aider les aidants, notamment sur la perte de salaire. Des annonces avant la fin d'année qui s'appliqueront dès janvier 2020.
Le Café des aidants, un reportage de Maxime Fayol à retrouver sur franceculture.fr. La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté aujourd'hui la requête des parents de Vincent Lambert. Ils contestaient l'arrêt du Conseil d'État qui avait validé la semaine dernière l'arrêt des soins pour leur fils en état végétatif depuis 10 ans. La CEDH a refusé de suspendre l'arrêt du Conseil d'État. En 2015, la Cour de Strasbourg avait déjà validé la décision d'arrêter les soins pour maintenir en vie Vincent Lambert. Terminons ce journal par un hommage à l'un des derniers vétérans du débarquement de Normandie. Bernard Dargols vient de mourir à la veille de ses 99 ans, surnommé le GI français. Bernard Dargols était stagiaire aux États-Unis pendant la guerre. Il s'est ensuite engagé dans l'armée américaine et c'est ainsi qu'il a débarqué en juin 44 à Omaha Beach. Une histoire qu'il avait commencé à raconter très tardivement, 68 ans après la guerre. Nolwenn Lejeune.
En 2012, Bernard Dargols a 92 ans et celui qui s'est longtemps tu livre un récit incroyablement clair et précis sur ce matin du 8 juin 44.
J'ai fait ce débarquement au milieu d'un bombardement incroyable qui m'a résonné dans le ventre pendant je ne sais pas combien de temps, mais qui n'était pas du fait du bombardement ennemi, mais de la part des navires alliés pour nous permettre de prendre pied sur le sol français. J'avais pas revu la France depuis 6 ans. J'étais parti en civil, je reviens avec une mitraillette. Je dis toujours, si ma mère me voyait, elle s'effondrerait.
Une parole rare qu'il a longtemps gardée pour lui parce qu'il avait peur de ne pas réussir à trouver les mots justes.
Je ne pouvais pas trouver un vocabulaire assez intelligent pour décrire ce qu'on peut ressentir quand on s'embarque dans un bateau pour aller dans un pays occupé par l'ennemi. Comment expliquer ça ?
Avec humour, il raconte aussi les préoccupations de ses copains GIs de l'époque.
Il y avait la question inévitable, si toutes les Parisiennes étaient jolies, ça va sans dire, et des questions un peu rigolotes. L'Américain boit beaucoup de lait, si le lait est homogénéisé, ça, il voulait savoir.
En 2014, Bernard Darcole s'était revenu au mémorial de Caen. Sa parole rare et précieuse s'éteint à la veille des commémorations du 75e anniversaire du débarquement.
Nolwenn Lejeune de France Bleu Basse-Normandie. La météo demain, une dégradation arrive par l'ouest. La pluie tombera sur la Bretagne avant de gagner la Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Ailleurs, le soleil résistera malgré quelques nuages bas. Température minimale entre 2 et 14 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales oscilleront entre 14 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.